je vais passer la parole à Jean-Michel Grenier. Donc je disais ancien directeur de la scène nationale de Cavaillon, qui est une scène nationale qui a beaucoup fait parler d'elle à un moment. On se souvient de quelques crises, voilà, on se souvient de quelques crises. On parlait là justement du point de vue local. Alors une scène nationale, c'est évidemment une institution qui dépend du ministère de la Culture, mais qui est ancrée aussi sur un territoire. Alors, justement, quelle expérience sur le territoire de Cavaillon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on travaille sur le territoire ? Comment on travaille sur la proximité aussi des gens qui sont là, qui habitent un territoire ? Parce que je pense que c'est aussi sur ce sujet-là que vous avez travaillé. Et on en parlait tout à l'heure, la question de cette fameuse question d'éloignement, des publics éloignés, comment vous avez traité ou quel point de vue vous avez sur cette question et comment vous l'avez, d'une certaine manière, traité en tant que directeur, concrètement en tant que directeur d'une scène nationale, avec le concours d'artistes, avec le concours d'équipe de la scène nationale.
Les crises, elles ne m'appartiennent pas, je les ai eues, mais elles étaient déjà inscrites dans les murs de la maison. Mais elles dissoutent justement de cette question. Elles disent, c'est ça qui est intéressant, on ne connaît personne, parce qu'il y a parfois des histoires qui se disent, bien sûr, qui s'attendent à des personnes. Moi, mon histoire, c'est que j'ai un parcours un peu de comédien, très peu, donc j'essayais de me raccrocher à l'endroit où je me situe. Je suis passé chez Simon, je suis passé dans ce qu'on appelait la rue Blanche, encore seulement à l'époque. Mais ça n'a pas été une histoire très longue en ce qui me concerne. Et après, j'ai fait beaucoup de productions, j'ai produit des artistes. J'ai eu une boîte qui faisait finalement un peu par hasard beaucoup de conseils, notamment auprès des collectivités locales, des conseils organisationnels. On a monté des festivals de jazz notamment. Jusqu'à ce qu'un jour, un maire d'une ville, celle de Trappes en l'occurrence, dans les Yvelines, avec qui on avait déjà travaillé sur un festival, nous sollicite pour écrire avec lui, une fois que le conseil municipal avait voté la construction d'une nouvelle salle. Enfin, il n'y avait pas de salle dans cette ville. 50 000 habitants, juste à côté de Versailles, mais à peu près le contraire de Versailles, sociologiquement. On se voit, et je dis souvent, parce que c'était un maire communiste pur et dur, comme on en rêverait encore, un instituteur qui était devenu maire par accident parce que le conseiller municipal était devenu adjoint, puis maire, et même devenu sénateur. Et le projet, je viens de dire comme ça, le projet se tenait dans une phrase, celui sur lequel on a travaillé, on a développé le projet culturel, il tenait en une phrase, je veux la fête de l'humain toute l'année. Et ça disait énormément de choses dans son esprit. Voilà. Je crois qu'on y a un petit peu arrivé, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas s'interdire de programmer Johnny Hallyday, pour dire les choses autrement. On ne l'a pas programmé, mais pour programmer de budget. Donc ensuite, je me retrouve à la scène nationale de Cavaillon, effectivement, dans un lieu où les crises sont ancrées, mais c'est des histoires politiques dans le joli sens de ce que peut être la politique culturelle ou la non-politique culturelle. Moi, une que j'ai vécue qui est passionnante dans son analyse, c'est on a beaucoup cheminé, notamment avec une association qui est un CHRS, un lieu d'hébergement de personnes en très grande précarité sur le territoire de la commune de Cavaillon. Et jusqu'à la fondation Avocat qui labellisait ce lieu s'était beaucoup intéressée à certaines résidences qu'on y mettait, et nous vous avez même proposé de les financer sans qu'on lui demande. Puis, de fil en aiguille, un jour, la Fondation Abbé Pierre me dit « On aimerait bien faire un séminaire autour de ces questions de l'art dans ces lieux de grande précarité. On pense toujours dans ces lieux-là à un toit, à une assiette avec quelque chose dedans, mais finalement, la question du partage d'un espace sensible dans le quotidien, au moins de manière aussi intense que la question du gîte et du couvert, se pose, et on aimerait bien faire du prosélytisme auprès de toutes les personnes qui travaillent dans la pension de famille. » Construit un séminaire qui s'est tenu à la Géothèque de Gennevilliers. Et ce qui est sorti de ce séminaire, c'est qu'il y avait énormément de projets finalement qui se réalisaient. C'était souvent des projets qui ne sortaient pas de la maison dans laquelle ils s'inscrivaient, que très souvent les artistes venaient là travailler gratuitement parce qu'ils y trouvaient quelque chose, notamment dans leur espace de création. Et donc de fait, ça, l'information ne sortait pas de là parce qu'elle n'avait pas vocation à sortir de là, comme il n'y avait pas besoin de financement particulier très souvent. Voilà. Mais on a découvert énormément de projets avec des gens formidables qui intervenaient, souvent de qualité. Donc de là sort l'idée qu'on crée un temps qui regrouperait une mise en valeur de tout ça. Donc on a inventé ensemble le lieu, donc le CHRS, la scène nationale et la Fondation Abbé Pierre avec son chéquier, On a inventé un festival qui s'appelle C'est pas du luxe, qui existe encore, qui se tient maintenant à Avignon, d'ailleurs, dans cette ville, je vais y revenir. Donc, première édition du festival, on est un an avant, je réserve tous les lieux possibles et imaginables à la ville de Cavaillon, parce que le théâtre, lui tout seul, qui n'a qu'une salle toujours, ne suffisait pas, il fallait faire des expositions, des petites manifestations, etc. Donc, il y a des MJC, je prends la salle, je réserve d'autres salles pour faire des expos. Tout ça est bloqué par les services municipaux. Et puis, je propose au maire un rendez-vous avec le délégué général de la Fondation Abbé Pierre pour lui exposer le projet. Le rendez-vous est pris, et le rendez-vous est annulé une semaine avant. Pardon, c'est pas que de l'anecdote que je raconte, c'est du sens des choses. Le rendez-vous est annulé une semaine avant avec un vrai prétexte. Le maire n'était pas disponible. Voilà. On reprend un rendez-vous un mois plus tard, lequel rendez-vous est annulé deux jours avant. On reprend un troisième rendez-vous qui est annulé le matin même. Alors là, je me dis, tiens.
Ça se présente mal.
Je me dis, tiens. Donc je téléphone à l'adjointe, en l'occurrence, Culture, qui dit oui, je vais venir te voir. Et une heure après, elle est dans mon bureau. Et elle me dit, écoute, on a annulé toutes les réservations. Ce festival ne va pas pouvoir se tenir à Cavaillon. Et je suis très très surpris parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait, on avait échangé sur rien encore. J'avais juste échangé sur un point, c'est que j'avais réservé beaucoup de lieux et qu'on ne les solliciterait pas financièrement, pour les rassurer. Et donc je répète cela, elle me dit non mais c'est pas ça du tout la question. Et à ce moment-là, donc, elle me dit qu'ils sont en train de travailler avec une boîte de communication et que l'image véhiculée par la Fondation Abbé Pierre, une image de pauvreté, est exactement à l'opposé de l'image qu'ils ont décidé de donner de cette ville. Donc pour situer les choses, vous connaissez certainement. Cavaillon, c'est 25 000 habitants, ville qui s'est construite de manière très riche sur un truc, c'était les expéditeurs. C'était à partir de Cavaillon que se diffusait tout produit de l'agriculture du sud-est de la France. Choses qui ont existé avant la politique agricole commune de l'Europe et avant le développement de la grande distribution. Donc c'est une ville qui a été très 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 riche. Un commerce plus, qui était devenu extrêmement déshérité puisque toutes ces choses avaient disparu. Et donc on travaillait sur cette image de la ville, qui était à sauver, enfin, les élus travaillaient là-dessus. Et voilà, donc il ne s'agissait surtout pas de véhiculer ça. Alors, on a essayé d'argumenter, de discuter, et c'était absolument impossible. Et je répète, on ne leur demandait pas d'argent. Et quand est arrivé le moment de... Alors, très vite, on a trouvé une solution à 10 km de là. Un maire plus amical, qui n'a pas vu de problème avec ça, avait un maire à la ville du Thor, qui s'est fait battre aux élections municipales deux ans plus tard. Et le premier acte des nouveaux élus a été de jeter le festival. On s'est retrouvé apte, pas très loin de là, et les élections municipales d'Apte ont été annulées par le tribunal administratif pour je ne sais plus quelle raison. Le maire battu, enfin le maire élu mais plus élu qui avait décidé d'accueillir le festival était très présent. Son adversaire qui allait se présenter contre lui de droite était également présente. Elle est venue beaucoup au festival et une fois qu'elle a été élue, c'est elle qui l'a battue donc cette maire de droite. Et la première chose qu'elle a faite, c'est de jeter le festival. Donc à chaque fois, il y avait quelque chose de politique, très fort, très puissant. Alors encore une fois, c'était... On ne faisait pas de théâtre politique du tout, Olivier. C'était que du théâtre amateur, c'était que des spectacles amateurs. L'enjeu était vraiment extrêmement précis. Sinon, on avait créé une mayonnaise qui permettait de faire venir du public de manière assez large, avec des concerts, etc. Voilà. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose de très très intéressant. Avec une institution comme la Fondation Abbé Pierre, qui n'est pas étiquetée politiquement du tout, c'était vraiment très passionnant. De fait, on était au cœur de la question de politique culturelle. Donc il était au cœur de ce que peuvent être les crises dans une... Il y a même un directeur régional des affaires culturelles, à une crise précédente, avec mon prédécesseur, Bernard Montagne, nommons-le, qui avait écrit au ministère qu'il fallait arrêter le label à Cavaillon, puisque, à l'évidence, cette ville n'en voulait pas, et qu'il fallait arrêter cette aventure.
D'accord.
Bon, finalement, quelqu'un du cabinet de la ministre de l'époque avait déjoué le système et avait sauvé la situation. Moi, je suis très fier de dire que j'étais le troisième directeur, j'étais le seul à partir de mon plein gré, puisqu'il y avait deux prédécesseurs, avec plein de sang sur les murs, si je puis dire. Alors, pour, ce que je voulais dire, c'était la question des publics éloignés. On parle toujours dans nos jargons professionnels de publics éloignés, et quand on parle de publics éloignés, on désigne plus ou moins les quartiers populaires. Voilà. Pour moi, les publics éloignés aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une catégorie. Parce que ces publics éloignés-là, les quartiers populaires, il suffit qu'on mette en place une action. Si on ne la pense pas trop mal, ça fonctionne tout à fait. Ce qu'on a réalisé avec la Fondation Abbé Pierre et qui donc vit toujours, prochaine édition du festival, c'est pas du luxe, c'est septembre, dans un an, puisque le festival existe. Maintenant, il a été accueilli par Avignon, après, ça s'est fait jeter par Apte. Il y a déjà eu la première édition l'année dernière, c'est une biennale. Donc, dès qu'on met en œuvre quelque chose auprès de ce que beaucoup considèrent comme des publics éloignés, en vérité, ça fonctionne très bien, et y compris en étant très exigeant artistiquement, même surtout si on est très exigeant artistiquement, j'ai envie de dire. Ne tirons surtout jamais les choses vers le bas, ça fonctionne, c'est aisé. Je fais beaucoup, beaucoup de projets en prison aujourd'hui. C'est très facile. Il y a une grosse école de théâtre qui existe maintenant depuis 5 ans à la Maison Centrale d'Art. C'est Joël Cobra et Caroline Guélène qui viennent, qui l'animent. Si vous connaissez le travail de ces artistes, vous pouvez imaginer qu'on n'a pas tiré vers le bas les choses. On est en train de réaliser un projet radiophonique avec Laure Adler autour de Bérénice de Racine. Enfin, on ne tire rien vers le bas, vraiment rien. Et ça fonctionne très, très bien. Pour moi, les vrais publics éloignés aujourd'hui, ce sont les élites. C'est là où il y a un réel problème.
Qu'est-ce que tu mets dans les élites? Tu peux être...
J'emploie ce terme comme un terme générique.
On va y les élus.
Les élus, on va y mettre la haute fonction publique, je sais pas, enfin, des interlocuteurs qui sont des décideurs, je pourrais dire, voilà, des décideurs, quelle que soit leur étiquette. C'est ceux-là vraiment qui sont éloignés. Donc c'est comme ça qu'un jour j'ai commis ce que les neveux pensent impossible, j'ai commis l'irréparable de partir dans le champ politicien. Mais parce que je suis interpellé par un élu qui était sénateur à l'époque, sénateur socialiste, et camarade commune m'interpelle sur le fait qu'il avait dit énormément de mal sur la musique contemporaine dans des termes qui étaient absolument indignes d'un homme qui était dit cultivé. Voilà. Et donc je rencontre cet homme par cette amie commune. Et effectivement, j'ai essayé de travailler sur cette question-là, sur cette question de. Alors j'avais trouvé un bon argument, je vous invite vraiment à aller sur Wikisource, il y a la thèse que Jaurès a soutenue dans son doctorat de philosophie, qui s'appelle « De la réalité du monde sensible ». Vous ne pouvez trouver que sur Wikisource, mais vous le trouvez sur Wikisource. Et là-dedans, Jaurès défend beaucoup de choses par rapport à la musique. Donc on est en 1890, je dirais, peut-être pas l'année exacte, mais c'est la fin du 19e en tout cas. Donc il y a une époque où la notion de musique contemporaine que nous connaissons aujourd'hui n'existe pas encore. La musique contemporaine de l'époque, c'est de musique. Il y a des musiciens dans la salle qui peuvent vous donner une charge, vous avez raison. Donc c'est une musique que nous aujourd'hui on a intégrée complètement dans nos oreilles, mais qu'à l'époque il semble difficile. Et donc Jaurès défend dans sa thèse très longuement le fait que si cette musique ne s'offre pas immédiatement à vous, elle vient chercher quelque part une partie de votre âme que vous n'avez pas encore explorée. Ce qui développe une histoire assez intéressante, un petit concept philosophique intéressant. Et la personne avec qui je parlais, donc qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, a été assez interpellée par cette histoire-là. Alors c'est important parce que il y a un opéra en région parisienne qui n'est pas dans une grande ville, c'est à Massy. Et il était maire adjoint de la culture de Massy quand a été inauguré cet opéra. Il était pour rien dans la décision, je crois, de l'existence de l'opéra, mais c'était quand même lui qui l'avait inauguré à l'époque. Et il s'était débrouillé pour faire virer les directeurs, etc. Enfin, il disait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et du fond, et de la forme. Et ça avait fini par m'agresser. Et finalement, de fil en aiguille, à essayer de le contrer et à y arriver à peu près, je me suis retrouvé dans une équipe de campagne électorale à penser qu'effectivement, on pouvait aller dans le champ politicien pour défendre l'idée de politique culturelle. Alors j'ai vécu ça pendant quelques années, j'en suis ressorti depuis. Ça me paraît difficile, donc peut-être que je vais finir par donner raison à Olivier Neveu.
J'ai jamais dit ça.
Hein. Si, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là.
J'ai jamais dit ça, vraiment.
Alors, je le dis.
Ouais, mais je l'ai dit.
Collectivité politique et le théâtre soient distincts relèvent en partie de l'évidence et ni l'une ni l'autre, ni l'une ni l'autre n'ont intérêt à se révéler interchangeables.
Voilà. Oui, bah oui. Ouais, voilà. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on ne doit pas être des militants politiques. Enfin...
Alors,
du coup, je suis un militant politique.
Je préfère dire politicien en l'occurrence, c'est ça que je voulais dire. C'est plutôt le sujet de. Voilà. J'ai perdu mon fil. Alors, si, je vais terminer sur un point. Dans les ouvrages de Olivier Neveu, parle abondamment de l'Agora d'Athènes, et ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré moi-même. Là, on est complètement en phase. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer que le théâtre qu'on connaît sous la forme d'aujourd'hui est quelque chose qui, quelque part, est né au même endroit et au même moment qu'on élaborait un certain nombre des outils de nos démocraties contemporaines, et notamment de nos démocraties représentatives. Pardon. Et donc on peut considérer qu'effectivement ces joutes oratoires, ces jeux oratoires qui se déroulaient là-bas, étaient comme une espèce d'exutoire nécessaire face à ce qui étaient des contraintes choisies, mais des contraintes quand même pour vivre cette vie démocratique utile à la vie de la cité. Comme on est dans une crise aujourd'hui de la démocratie représentative, une crise forte, récente, mais très très forte, écroulement des partis politiques, dit beaucoup de choses, je dis bien de tous les partis politiques. Donc de fait, la question de nos joutes oratoires, qui sont devenues la forme théâtrale que nous pratiquons aujourd'hui, il me semble que c'est un sujet à explorer. Donc là, je me tourne vers les universitaires, moi je ne suis pas un universitaire, mais il me semble que là, il y a un sujet à gratter par rapport à la question du théâtre politique et de la politique culturelle, peut-être.